Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. On va parler d'Elon Musk et des critiques qui lui sont faites en général, et récemment même des menaces des menaces de fermeture de la plateforme X. Évidemment, c'est que du pipeau. On va parler de ces roquets, de ces rageux en fait contre Elon Musk. Et on va voir également que contrairement à ces fonctionnaires, à ces commissaires européens, à ces gens qui se gavent d'argent public pour ne faire que des lois pour pourrir notre quotidien, on va voir comment Elon Musk, à l'inverse, grâce à ses innovations et à son entrepreneuriat, a permis, en rachetant X, nous permet d'avoir une plateforme où on peut s'exprimer beaucoup plus librement, où on peut transmettre nos idées plus librement, comment notamment aussi avec Starlink, il permet à des Français et à plein de gens dans le monde d'avoir Internet en haut débit de nulle part, juste avec un peu d'électricité. Donc on va voir le succès de cet entrepreneur et pourquoi en fait il agit beaucoup plus dans notre quotidien que ses fonctionnaires qui ne servent à rien. Donc il lui est reproché de ne pas tempérer la diffusion d'images terroristes, de propagande de la part du Hamas sur sa plateforme. Alors il faut savoir que il y avait une forte censure idéologique sur Twitter avant le rachat d'Elon Musk d'un point de vue idéologique, mais la plateforme a toujours été très libérale sur les contenus graphiques, hein, que ce soit la violence, la nudité, la pornographie. Elle n'est pas censurée en tant que telle sur la plateforme. Elle vous avertit quand il y a un contenu graphique et vous pouvez cliquer dessus si vous voulez le voir, ou si vous voulez le voir en général, ou que ce soit masqué en général. Et donc ça date pas d'hier. Mais c'est marrant, ça ne dérangeait personne quand le réseau social n'appartenait pas à Elon Musk. Très drôle. C'est marrant, c'est intéressant. Et pourquoi personne ne s'inquiète de la diffusion prolixe hein, de contenu terroriste sur les autres plateformes comme Snapchat, où il y a aussi énormément de trafic hein, de drogue, de fraude documentaire, donc de trafic de documents officiels, enfin de documents notamment pour frauder aux aides sociales. Personne ne s'inquiète de Telegram non plus, mais Elon Musk, c'est la cible parfaite. Ça montre qu'on lutte contre l'extrême droite, comme si Elon Musk était d'extrême droite. Enfin, je veux dire, c'est d'abord un des plus grands entrepreneurs du monde et je crois l'homme le plus riche du monde. Mais bref, c'est toujours bien de s'en prendre au méchant milliardaire qui veut museler un réseau social qu'il a en réalité libéré de la censure woke qui avait totalement imprégné Twitter. Donc bref, un commissaire européen, un Français en plus, quel bonheur, Thierry Breton. Évidemment, la France est excellente hein, pour fabriquer des commissaires européens, des petits procureurs, des fonctionnaires qui, au lieu de se poser la question de pourquoi il n'y a pas de Twitter européen, de Twitter français, de Facebook français, préfèrent aller censurer les plateformes qui fonctionnent de mieux en mieux avec leur Digital Service Act qui est un immense l'organisation à l'échelle européenne de la censure des plateformes numériques, comme s'il n'y avait pas déjà assez de censure en amont de la part du groupe Meta, d'Instagram, etc. Et évidemment ça va mieux sur Twitter et c'est ça qui les rend fous dans le cadre du Digital Service Act sous peine d'un bannissement en Europe. Alors, premièrement, le terrorisme ne date pas de cette attaque du Hamas sur Israël. Doit-on rappeler que beaucoup d'exactions ont été diffusées sur les réseaux sociaux, que ce soit le live Facebook de l'attentat de Magnanville. Je rappelle que l'attentat de Magnanville, donc des djihadistes, des terroristes qui ont assassiné un couple en pleine nuit chez eux, ils tuent le père, ils tuent la mère, ils laissent en ville l'enfant en question. Abominable. Aujourd'hui, la peine est tombée d'ailleurs pour le complice, qui était condamné à 22 ans de réclusion à perpétuité. Et la revendication de cet attentat s'est faite lors d'un live de 13 minutes, un live Facebook. Est-ce qu'on a entendu une seule fois Thierry Breton aller menacer Meta, le groupe Meta, donc le groupe Facebook, de censure, d'interdiction? Comme par hasard, Elon Musk, pour le coup, lui est visé par cette menace de fermeture. C'est grotesque. On voit évidemment ce qui se cache derrière ça. Cette détestation d'Elon Musk, on va y revenir. Alors évidemment, ces menaces, c'est totalement du flan. parce que ces demi-habiles qui vont jamais au bout de ce qu'ils font n'iront jamais bannir cette plateforme, parce que où est-ce que Gérald Darmanin et ce gouvernement iront tweeter leur message d'indignation si on supprime X, donc Twitter? Ils pourront plus, donc évidemment ils vont jamais interdire X. C'est juste pour mener leur petite bataille, pour faire genre ils réagissent. Ça, c'est des personnes qui proposent des demi-solutions, des demi-propositions, sans jamais aller au bout de leur réflexion. Parce que si on va au bout de leur réflexion, eh ben on interdit Facebook, on interdit Snapchat, on interdit Telegram. Et évidemment, on finit en Corée du Nord. Donc au lieu de vous soucier de s'il y a des messages terroristes, et c'est pas la première fois, souciez-vous peut-être de lutter contre le terrorisme sur le sol européen et sur le sol français, bande de trous du... Et tout ça, ça illustre quoi ? Ça illustre donc cette détestation envers Elon Musk, qui pour le coup, et c'est là où je vais en venir aujourd'hui dans ce podcast, c'est Elon Musk qui fait bien plus que la Commission européenne, bien plus que l'État français pour changer notre quotidien. Et je vais commencer par cette plateforme X. Elon Musk, donc ça fait 6 mois et quelques, ou 1 an qu'il a racheté la plateforme. Et donc alors là, on a eu évidemment des cris d'orfraie. Tout le monde était là, oh, rendez-vous sur Mastodon. Oh là là, le rachat d'Elon Musk de Twitter s'annonce terrible pour la liberté d'expression. Rendez-vous sur Mastodon. Évidemment, personne n'est sur Mastodon parce que Mastodon est extrêmement compliqué à utiliser. C'est un truc de geek absolument incompréhensible. Et évidemment, Sandrine Rousseau qui était là, allez, ciao, je vais sur Mastodon. Évidemment, Sandrine Rousseau continue à tweeter sur X. Donc, tous ces tartarins, comme dirait le menhir, tous ces fanfarons n'ont évidemment pas mis non plus en application leurs menaces et tout le monde continue à tweeter comme des petits rageux sur cette plateforme du démon. Plateforme du démon qui néanmoins fait plaisir, puisque alors qu'elle était devenue la plateforme de la censure du wokisme, on a pu récupérer un peu de liberté d'expression grâce à cet outil. Elon Musk, en rachetant cette plateforme, nous permet, à nous, dans notre quotidien petit français, très loin de la Californie, très loin des États-Unis de Elon Musk, qui est aussi sud-africain, nous permet de récupérer un peu de liberté d'expression. Alors évidemment, moi je ne suis pas spécialement un fan d'Elon Musk, je ne le connais pas particulièrement, je sais qu'il vient d'Afrique du Sud, je sais que ça a été un gars qui a été victimisé dans son enfance et qui a renversé la vapeur, hein, tout simplement, qui est devenu quand même une machine de guerre, hein, entrepreneuriale et même physique, hein, c'est plutôt un beau bébé. Donc parcours très intéressant, hein, quand même, on va pas cracher dessus comme un gros rageux d'anticapitaliste et de socialistes. Elon Musk a quand même créé relativement des entreprises assez monstrueuses. Donc je rappelle que Tesla, la capitalisation boursière de Tesla, qui ne reflète pas évidemment la vraie valeur et la production de richesse de cette entreprise, mais la capitalisation boursière de Elon Musk est supérieure à toute la capitalisation boursière de l'automobile, je crois, français, mais oui, ou européen. Donc si vous voulez, c'est-à-dire que la capitalisation boursière de Tesla dépasse celle de Stellantis, qui est un groupe absolument gigantesque. Donc Stellantis, Peugeot, Citroën et d'autres marques, Renault, Nissan, Mitsubishi également. Donc voilà, Tesla c'est gigantesque. Évidemment, et Tesla est devenu le premier vendeur de voitures en Europe. Voilà, la première marque qui vend des voitures en Europe. Donc évidemment, en termes de réussite entrepreneuriale, c'est juste monstrueux, hein, parce que en fait créer un constructeur automobile, c'est titanesque. En fait, il faut savoir que la plupart des constructeurs automobiles, à part dans les marchés de niche, les marchés de luxe, sont de vieilles entreprises qui ont été rachetées, fusionnées dans d'autres groupes, hein, Porsche, peut-être Porsche est indépendant, mais voilà, par exemple le groupe Volkswagen a aspiré énormément de vieux constructeurs, Renault ça a 100 ans, Peugeot très vieux également, voilà, les géants en général, être un constructeur automobile en général ça vient d'initiative de l'État, hein, souvent, c'est une très très grosse machine, et donc créer un constructeur en quelques années comme ça, c'est un exploit. Il faut rappeler aussi qu'Elon Musk a participé à PayPal, qui a été revendu à eBay pour 1,5 milliard d'euros. Il a été aussi cofondateur de OpenAI, donc cofondateur de ChatGPT, qui est donc une entreprise des plus conséquentes, même la plus conséquente en intelligence artificielle. Neuralink, donc bon, on va prendre Neuralink, ça en effet c'est Tout ce qui, c'est plus ce qui m'inquiète chez Elon Musk, c'est qu'il est fasciné par l'homme augmenté, avec l'implantation d'une puce dans le cerveau humain. Et évidemment, il dirige SpaceX, donc qui est un programme spatial privé, ce qui est monstrueux. Alors, je ne dis pas que tout ça sont des bonnes nouvelles, je ne dis pas que SpaceX n'a pas été énormément aidé par l'appareil américain, par l'industrie américaine, par l'État américain, mais ça reste assez monstrueux. Voilà, donc Elon Musk, exceptionnel entrepreneur, il rachète X, il nous ramène de la liberté d'expression. Autre chose, j'ai déménagé dans le Dauphiné, dans une magnifique région, je suis au pied du Vercors et je suis quasiment en zone blanche. J'arrive même pas à passer des coups de fil parce que c'est pas, je suis entouré de noyers, peut-être que ça brouille un peu. Le Wi-Fi ADSL étant pourri, la fibre n'étant pas acheminée là où j'habite, je n'allais pas attendre des années parce que j'avais une urgence professionnelle parce que je fais du télétravail, 3 jours à Paris, 2 jours chez moi, jeudi, vendredi. Je n'avais pas le choix. J'ai donc commandé une antenne Starlink. Une antenne Starlink, c'est une antenne satellite. Jusque-là, rien de révolutionnaire, puisque pour vous qui avez connu TPS ou CanalSat, l'internet, la télévision par satellite, c'est le même système, sauf que avec Starlink, vous récupérez internet en haut débit. Donc en fait, c'est une façon d'aller plus vite que l'apport de la fibre optique ou de boîtier 4G ou 5G. Si vous n'avez pas la 5G, si vous n'avez pas la fibre, et bah vous avez Starlink. Starlink a baissé ses tarifs, c'est à 40 euros par mois ou 50 euros par mois si vous louez le service. C'est un excellent service. La mise en route est extrêmement simple. Il suffit que la vue soit dégagée pour que l'antenne puisse capter les satellites. L'antenne est extrêmement maniable. Il y a un seul branchement. Un branchement pas le décodeur, mais le routeur Wi-Fi. Un câble, genre d'USB, qui se branche. Et l'autre, c'est la prise secteur. Et après, vous êtes connecté à Internet depuis le satellite. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors, ça n'a pas révolutionné. Ce n'est pas une révolution technologique, mais c'est une révolution en termes d'accessibilité du commun des mortels à ces technologies. Et donc, avec ces technologies, il y a plusieurs services qui existent dans Starlink. Starlink pour l'aviation, Starlink pour le permanent, donc Starlink mobile, donc vous êtes sur votre van et je sais pas, vous vivez en van, partout où vous allez sur Terre ou du moins là où Starlink couvre assure la couverture, vous avez un internet en débit. Donc je vous laisse imaginer ce que ça permet en termes de mobilité, c'est fou. Et donc, alors moi voilà, petit français bien loin des États-Unis et de pouvoir me payer une Tesla, je bénéficie quand même du service X qui est vachement amélioré, qui nous permet une plus grande liberté d'expression, de pas se faire bannir, de pas se faire bloquer par la plateforme. Il me permet d'avoir internet de là où je suis, n'importe où, parce que c'est une technologie satellite. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? On pourrait parler aussi de Tesla. Pour les gens qui aimaient la voiture électrique, Tesla a été précurseur sur la voiture électrique. Alors depuis, tous les constructeurs s'y mettent, mais ils ont été précurseurs. Et qu'y a-t-il d'autre comme technologie qu'a créé? Je me rappelle PayPal, je me rappelle, moi j'avais pas de carte bleue et du moins je me méfiais un peu. C'était un peu compliqué à l'époque de payer en carte bleue sur PayPal. Grâce à PayPal à l'époque, vous n'avez pas besoin de relier ça à un compte en banque ou quoi que ce soit. Vous pouviez payer par PayPal sur plein de sites. C'était extrêmement pratique pour faire pour acheter en ligne si vous n'avez pas de carte bleue. Pareil, service extrêmement pratique. C'est le génie d'Elon Musk. C'est, il y a un problème, il va trouver une solution, il va la mettre à disposition des utilisateurs. Ça, c'est exactement ce qui est sain dans le libéralisme économique, dans l'économie tout simplement, dans l'entrepreneuriat. Cette façon que certaines personnes ont de réussir à trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Donc voilà, que ce soit PayPal, que ce soit SpaceX, OpenAI, Tesla, Starlink, c'est impressionnant ce que cet homme a pu mettre en place. Et on a en face des personnes qui, depuis le rachat de Twitter, ne le lâchent pas en l'accusant de transformer la plateforme un repère d'extrême droite ou je sais pas quoi. Twitter a mis en place un outil de fact-checking en direct, donc fact-checking, vérification d'informations, qui est incroyable et qui est collaboratif. Donc sur le un peu voilà, le modèle de Wikipédia. Donc Wikipédia est quand même occupé principalement par des woke, hein, faut le dire. Là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Mais il a développé un système collaboratif sur Twitter. Il n'y a pas besoin d'être un d'être un d'avoir des. Enfin bref, c'est beaucoup plus simple et ça permet de mettre du contexte sur des tweets qui sont accusés. De diffuser des fausses informations ou d'être inexact. Et c'est hyper sain parce que c'est en direct, ça ne censure pas le tweet, même s'il est faux ou la personne s'est trompée. Ça permet en dessous de mettre un genre d'avertissement. Par exemple, là, j'ai un exemple d'un tweet de Abou Safia qui explique que. Que l'armée israélienne prévient les Gazaouis lors des bombardements. L'armée israélienne prévient les Gazaouis, entre autres, quand ils vont bombarder un endroit sur Gaza. Et en effet, ça s'est attesté, c'est une réalité. Tzal envoie des SMS et des appels pour les prévenir. Alors là, en l'occurrence, il y a une vidéo d'un téléphone qui sonne. Et. Bon, et apparemment, c'est pas exactement le cas. Et il y a des lecteurs qui ajoutent du contexte en dessous. Il y a écrit ça. Des lecteurs ont ajouté du contexte. Cette vidéo est filmée au Waled Off Hotel à Bethléem, un musée qui dépeint artistiquement la vie des deux côtés du mur. Il ne s'agit en aucun cas d'un appel réel, mais d'un objet artistique politisé. Donc voilà. Alors, sur le fond, ça existe, hein, ces appels de l'armée israélienne. Mais en l'occurrence, cette vidéo n'était pas un vrai exemple d'alerte de l'armée israélienne en cas de tir sur Gaza. Il y a plein d'exemples comme ça et c'est génial parce qu'en fait la France insoumise qui passe son temps à lâcher des fake news, à lâcher une aberration, à nier le lien entre immigration et insécurité, à chaque fois ils se font fact-check. Et ça va dans les deux sens, c'est pas seulement contre les gens de gauche, ça va aussi contre les gens de droite qui disent des conneries et c'est hyper sain. Et sans passer par une censure, ça met un disclaimer en dessous qui n'est pas moralisant, etc. Donc honnêtement, c'est un progrès pour la plateforme, c'est hyper intéressant. Donc voilà, comment Elon Musk arrive à réussir à transformer tous ces outils en des choses extrêmement positives. Et enfin, on a ces fonctionnaires européens, Thierry Breton. Qu'est-ce qu'il a fait, Thierry Breton? Qu'est-ce qu'il fait à part créer des lois pour emmerder encore plus les Français et les Européens? À quoi sert Thierry Breton? À part vouloir appliquer son Digital Service Act qui servira simplement à rendre encore plus compliqué la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. À quoi sert Jean-Noël Barrot qui menace Elon Musk de bannir son réseau social? Ça ne se fera jamais. Jean-Noël Barrot, dans 6 mois, il a déjà changé de... Il n'est même plus au gouvernement. Les ministres du gouvernement, on ne sait pas qui c'est, ils changent tous les 6 mois. Fermez un peu vos moules et prenez-en de la graine. Pourquoi l'État français? Pourquoi la France, qui est par exemple, je sais pas, on a tous eu quasiment, enfin pas tout le monde, mais tout le monde avait la télévision par satellite. Pourquoi en France, Orange, Free et Bouygues, au lieu de jouer une fausse concurrence, de jouir de leur situation de monopole, pourquoi ces groupes n'ont pas créé plutôt les antennes Starlink avec la technologie satellite? Pourquoi ils n'ont pas fait en sorte que toutes les paraboles immondes qu'on a sur nos maisons, on ne puisse pas récupérer Internet directement avec? Pourquoi le programme spatial européen n'envoie pas des satellites pour qu'on ait Internet depuis satellite comme l'a fait Elon Musk? Qu'est-ce qu'on attend? Et est-ce que le programme spatial français-européen, il n'est pas assez poussé? Qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi c'est SpaceX qui débarque et qui le fait? C'est très bien la fibre optique, les Français sont excellents en fibre optique. On a même l'entreprise la meilleure du monde en dépose de câbles de fibre optique en mer. Vous savez, les continents sont reliés pour Internet avec d'immenses et énormes câbles de fibre optique qui traversent les continents, des immenses câbles qui traversent l'Atlantique, qui traversent le Pacifique. C'est de la folie, qui traverse la Manche. Et c'est une entreprise française qui est leader de ce marché. Mais pourtant, on est comme des connards parfois à attendre des mois et des mois pour avoir la fibre, alors que votre commune est desservie. Hein, je ne parle pas d'endroits où il n'y a vraiment pas la fibre. Dans le Vercors, il n'y a pas la fibre, hein, c'est trop compliqué, etc. Mais il y a des endroits où c'est desservi et ça prend des mois à arriver parce que, évidemment, le système français est fait comme ça. Il y a besoin d'un prestataire d'infrastructure pour acheminer la fibre dans votre rue et puis la fibre jusqu'à votre limite de propriété, enfin, la fibre jusqu'à votre limite de propriété et de la limite de propriété à votre maison, parce que si vous avez un terrain, et ben c'est un autre prestataire qui intervient. Bon, bref, La fibre, en réalité, ce qui arrive souvent, c'est qu'elle arrive en ville, ou du moins dans des villages. Mais du coup, en fait, quand vous avez une maison, c'est compliqué, ou bien elle est passée par des câbles, par des poteaux électriques. Mais si vous n'êtes pas relié à des poteaux électriques pour l'électricité et le téléphone chez vous, et ben la fibre optique, vous avez qu'à attendre des mois et des mois. Donc, qu'est-ce qu'attendaient les Français plutôt que d'avoir des fonctionnaires qui pompent un fric monstrueux à la commission qui n'est pas élue, la commission qui passe son temps juste à mettre des barrières aux libertés des pays européens, à leur imposer des quotas de migrants, à leur imposer un libre-échange qui détruit nos industries, qui détruit notre agriculture. Pourquoi ces fonctionnaires à la con, justement, n'œuvrent pas juste pour faciliter le quotidien des Français? Ce que Elon Musk arrive à faire bien mieux que depuis les États-Unis, alors qu'il n'a rien à voir avec nous, avec la France, avec l'État français. Et je suis pas en train de dire que le privé est la solution à tout. Je suis pas en train de dire que je suis pas libertarien comme apparemment le serait Elon Musk. Ça n'a rien à voir. Je dis juste que c'est bon. C'est peut-être sans doute dû à cet État qui est maintenant qui est beaucoup trop gros, qui est un mammouth, etc. Donc il n'arrive plus rien à créer. On a des hauts fonctionnaires par centaines par centaines et par milliers, mais on fait appel au cabinet de conseil McKinsey pour gérer la crise du Covid et d'autres politiques. Mais bref, et oui, et également, et en cause Elon Musk, parce que il a coupé le service Starlink qu'il avait mis à disposition des Ukrainiens. Faut savoir que les Ukrainiens avaient demandé à Elon Musk de leur envoyer des antennes Starlink pour se servir d'Internet et donc d'une meilleure protection que les ondes radio pour mener leur guerre de défense hein, contre les Russes. Elon Musk s'est exécuté. Il a envoyé en moins d'une semaine, des camions entiers remplis d'antennes de Starlink qui ont été répartis pour l'armée, pour des unités de l'armée ukrainienne. Sauf que l'armée ukrainienne qui envisageait de faire un Pearl Harbor contre la Russie a coupé le service Starlink. Et en effet, bon, bah, ça a interrompu apparemment. Bon, j'en sais pas plus et on n'en sait pas vraiment plus sur la réalité de cette intervention d'Elon Musk dans le conflit. Mais voilà, ça aurait empêché les Ukrainiens apparemment de mener une offensive, une énorme offensive contre la marine russe et qui aurait créé un Pearl Harbor à la russe. Mais forcément, désolé, quand vous mettez au service, quand on se met sous la dépendance d'un service privé, donc de la puissance d'une entreprise privée, en l'occurrence Starlink, eh bien, le pouvoir décisionnel ne revient pas seulement à l'état-major ukrainien et au président ukrainien. Bah forcément, là vous êtes dépendant, votre souveraineté est amenuisée par le pouvoir qu'Elon Musk a sur son entreprise et a eu de couper ce service. Alors contractuellement, ça se conteste sans doute. Après, je crois qu'il met à disposition ce service Starlink pro bono, voilà pour la cause entre guillemets. Donc il a retiré ce service le temps d'empêcher cette attaque apparemment. Mais voilà, c'est une bonne leçon dans le sens où les États qui s'en remettent de plus en plus à des acteurs privés, eh bien ça a aussi des conséquences. Ça a aussi des conséquences et ça montre que bah voilà, la puissance des entreprises privées peut avoir un réel impact dans nos vies, positivement ou négativement évidemment. Mais en tout cas à l'échelle d'un État, c'est évidemment assez dramatique de s'en remettre à des acteurs privés sur des terrains aussi stratégiques que par exemple voilà, la transmission. En fait, voilà, l'armée ukrainienne travaille beaucoup avec Starlink et donc communique beaucoup en fait, avec Internet, avec des outils hyper, hyper communs, avec Zoom, avec Google, etc. Mais bref, voilà ce que j'avais qu'à dire sur Elon Musk et pourquoi ces petits fonctionnaires veulent lui mener la vie dure. Alors qu'honnêtement, évidemment, je ne connais pas spécialement Elon Musk, il y aurait plein de choses à dire sur ce qu'il fait, mais sur honnêtement ce qu'il propose, ce que ces entreprises proposent, c'est d'une grande qualité ça nous apporte vraiment dans notre vie, comme je disais, au quotidien, bah avec un Twitter, avec une plateforme comme X qui est plus libre, qui est plus précise, où enfin, ce n'est pas juste les woke qui ont leur dernier mot sur cette plateforme. Avec Starlink, là, évidemment, c'est assez prodigieux, entre guillemets, voilà, au milieu de nulle part, de brancher en deux, en brancher en deux temps trois mouvements, une antenne qui vous fournit Internet en haut débit. Donc voilà, voilà, et continuez d'essayer de vous acharner sur Elon Musk, c'est absolument ridicule. De toute façon, comme on dit, il n'y aura rien, il ne va rien se passer, ils ne vont pas du tout fermer X, et de toute façon, les gens prendront des VPN s'il faut. Donc voilà, allez, rendez-vous les losers, les petits roquets qui passent leur temps à vouloir interdire, à ajouter des lois. Rendez-vous sur Mastodon, éclatez-vous. Ou rendez-vous sur Facebook, le tombeau des réseaux sociaux, on va dire. Bref. Allez, merci à tous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez un Starlink, vous êtes sur X depuis que vous êtes retourné sur Twitter, depuis que Elon Musk a racheté la plateforme. Bref, ciao tout le monde. Désolé, c'était un peu long. Et à bientôt.